Chapitre 2. Le choix des mots. Les mots ont un sens. Voilà généralement ce que l'on répond à l'interlocuteur qui nous assène des paroles lourdes avec trop de légèreté. Une phrase si souvent entendue qu'elle en est devenue un cliché. Or, elle est contestable. D'une part, parce que les mots ont souvent plusieurs sens. Par exemple, entre deux plaidoiries, un avocat peut très bien déjeuner d'une salade d'avocat. Il existe d'ailleurs des mots qui peuvent dire une chose et son exact contraire. Ainsi, le mot « hôte » désigne à la fois celui qui offre l'hospitalité et celui qui la reçoit. Mais surtout, parce que tous les mots possèdent, sinon deux sens, au moins deux contenus, la dénotation et la connotation. 1. Dénotation et connotation. En linguistique, le concept de dénotation désigne le sens littéral d'un mot, que l'on peut définir et sur lequel tout le monde s'entend. La connotation, en revanche, désigne l'ensemble des représentations qui sont attachées à ce mot et sur lesquelles il peut y avoir des divergences, voire des désaccords. Prenons un exemple. Les mots « ouvrage », « bouquin » et « livre » possèdent la même dénotation. Ils désignent tous les trois un objet constitué d'une couverture reliant des pages contenant du texte ou de l'image, en somme, ce que les lectrices et les lecteurs ont probablement entre les mains ou dans les oreilles en ce moment même. En revanche, ces termes présentent chacun une connotation légèrement différente. On a tendance à emprunter à la bibliothèque un ouvrage de philosophie, mais à emporter à la plage son bouquin de l'été, et, dans le doute, à demander à nos amis quel est le dernier livre qu'ils ont lu. Le mot « ouvrage » évoque plutôt une lecture sérieuse et exigeante, « bouquin » un contenu davantage léger et divertissant. Quant à « livre », il reste relativement neutre. À chaque fois, la dénotation est la même, en revanche, les connotations sont différentes. En jouant sur l'articulation entre dénotation et connotation, la langue nous offre ainsi la possibilité de dire une même chose de mille manières différentes, ou, plus exactement, de dire de mille manières mille choses légèrement différentes. Pour les oratrices et les orateurs, il y a là un véritable trésor à exploiter. Si nous désirons parfaire notre force de conviction, nous devons être capables de choisir les mots les plus adéquats, ceux qui donneront le plus de poids à notre argumentation, par la signification qu'ils ont, mais aussi par les représentations qu'ils portent. 2. Mettre les connotations de son côté. En rhétorique, la sélection du lexique n'est pas qu'une question de style, d'esthétisme ou d'ornementation. C'est aussi, et même avant tout, une composante de l'argumentation. Du choix de nos mots dépend, bien sûr, la clarté de nos raisonnements. La dénotation de notre lexique doit être précise afin de rendre notre discours le plus intelligible possible. Mais les mots ne sont pas de simples briques que l'on empile pour édifier des arguments. Chacun d'eux est un monde en soi. Ils infusent dans l'esprit des auditeurs un ensemble de représentations qui vont venir colorer, nuancer ou altérer notre raisonnement. Que ces représentations soient à notre avantage et nous pourrons bâtir sur des fondements solides. Qu'elles jouent contre nous, en revanche, et il nous faudra construire sur des sables mouvants. Quand bien même notre édifice argumentatif aurait été impeccablement élaboré, il risquerait à tout moment d'être englouti sous des représentations mal choisies. Il va donc nous falloir être particulièrement attentif à la connotation de notre lexique. Elle a le pouvoir de porter, ou au contraire, de saper toute une entreprise de conviction. Choisir des termes positifs. Ces considérations pourraient paraître anodines. Elles nous mènent pourtant à l'une des règles les plus essentielles de la rhétorique. Les mots eux-mêmes participent à emporter ou éloigner la conviction. indépendamment du raisonnement que nous tenons, des arguments que nous employons et des phrases que nous prononçons, les mots qui sortent de notre bouche ou de notre plume ont un effet propre sur l'auditoire. Le psychologue Thierry Melchior parle à ce titre de la fonction proférentielle du langage. Le simple fait de proférer un mot suffit à matérialiser la réalité qu'il désigne. Cela signifie que, lorsque nous cherchons à emporter la conviction, nous devons porter une attention de tous les instants aux représentations que nous actionnons. Qu'un seul mot mal connoté nous échappe, et ce sont des pans entiers de notre argumentation qui peuvent s'effondrer. Étude de cas. Passionné depuis l'enfance par la corrida, je suis aujourd'hui un torero respecté. Consécration suprême, j'ai été invité dans une émission de télévision grand public à parler de ma passion pour cette belle tradition. Je n'en reste pas moins un peu soucieux. Il y a de grandes chances, je le sais, que je sois attaqué sous l'angle de la souffrance animale. Le jour du tournage, mes craintes se révèlent infondées. Tout le monde est très bienveillant, l'émission se passe bien et je commence à me relâcher. L'un des journalistes me pose alors cette question. Vous dites que la corrida rassemble toutes les générations, mais tout de même, assister à la mort d'un animal, est-ce que c'est vraiment un spectacle familial ? Trop en confiance, je réponds avec empressement. « Oh, mais vous savez, présenter la corrida de cette manière, c'est très réducteur. L'agonie du taureau n'est qu'une toute petite partie du spectacle. » Autour de moi, les regards changent, se font étonnés, puis belliqueux. Je me fige, je sais que je viens de commettre une terrible erreur. Décryptage. Agonie. Le terme est terriblement mal choisi. Il véhicule des connotations de souffrances extrêmes et de spectacles sanglants, tout ce que nous cherchions précisément à mettre à distance. En un mot, nous avons sapé l'intégralité de notre travail argumentatif et offert un angle pour nous attaquer avec une terrible efficacité. D'autant que ce mot, c'est nous qui avons choisi de l'employer librement et spontanément. Il risque d'être difficile de le contester ou de le faire oublier. Lorsque nous parlerons, c'est désormais la souffrance et le sang que nos auditeurs auront à l'esprit. Redéfinir les termes négatifs. Il arrive, hélas, que nous n'ayons pas le luxe de choisir les termes avec lesquels nous argumentons. Au contraire, ils nous sont imposés. Cela peut être le fait de l'institution au sein de laquelle nous intervenons, dans laquelle il existe des dénominations officielles dont il peut être difficile de se défaire, mais également d'un supérieur hiérarchique qui évoque notre travail en un lexique pas forcément à notre avantage, ou même d'un contradicteur qui nous jette un qualificatif péjoratif au visage. Dans chacune de ces situations, il est possible de rester sur la défensive en contestant le terme incriminé pour le remplacer par un autre mieux connoté. Vous utilisez le mot « je comprends bien ce que vous voulez dire », à titre personnel, je préfère parler de… Il est également possible de recourir à un autre outil, la définition rhétorique. Il consiste tout simplement à accepter le terme utilisé, mais à en proposer une redéfinition qui renforce notre argumentation au lieu de lui nuire. Étude de cas. Journaliste pour un magazine populaire, j'ai soumis à ma rédactrice en chef une proposition de sujet qui, bien qu'un peu technique, me tient à cœur. Durant la conférence de rédaction, dans laquelle nous décidons de la composition du prochain numéro, elle revient dessus. « Ah oui, et on a votre proposition sur… qu'est-ce que c'était déjà ? Les micro-travailleurs qui alimentent les algorithmes en données ? Ah, j'ai peur que ce soit un peu intello, hein, quand même. » Me voilà dans l'embarras. Si j'entre en confrontation directe, elle risque d'en prendre ombrage et de balayer ma proposition d'un revers de main. Mais si j'acquiesce à son jugement, l'affaire sera entendue, mon enquête n'est pas adaptée. Dans un cas comme dans l'autre, je peux d'ores et déjà me préparer à en faire le deuil. Je choisis donc une troisième voie. Alors, si par intello, vous voulez dire que c'est un article exigeant et profond, en effet, je suis d'accord avec vous. Mais il me semble que ce sont précisément les valeurs pour lesquelles nous nous battons dans ce magazine, non ? Ma rédactrice en chef ébauche une petite moue, à la fois embêtée et amusée. Je viens peut-être de sauver mon papier. Décryptage. Cela n'a l'air de rien, mais nous venons en réalité de déployer une stratégie redoutable. En premier lieu, parce que nous avons enrôlé de notre côté les valeurs cardinales de l'organisation, l'exigence et la profondeur. Sauf à démontrer que notre proposition ne satisfait en réalité ni à l'une ni à l'autre, il devient délicat de s'y opposer. Mais en outre, notre redéfinition du terme « intello » est particulièrement bien ficelée. Il s'agit en effet d'un de ces nombreux mots dans lesquels cohabitent des connotations ambivalentes, certaines négatives, d'autres positives. En l'occurrence, il peut désigner tout à la fois un contenu abscons et assommant ou, comme nous le soulignons, profond et exigeant. Notre interlocutrice se retrouve donc piégée. Elle ne peut plus refuser le terme, c'est elle-même qui l'a mis sur la table. Quant à le redéfinir à son tour, elle pourrait s'y risquer, bien sûr, mais paraîtrait tatillonne. Il est toujours possible de refuser, bien sûr. J'entends bien, mais je pense quand même que le sujet est un peu trop aride. Simplement, cela lui demandera d'y mettre une plus grande volonté et d'être prête à argumenter. Nous ne l'avons pas forcément convaincue du bien fondé de notre position. En revanche, nous l'avons peut-être dissuadée de s'y opposer. C'est tout ce que nous souhaitions. Bien sûr, cette stratégie ne sera pas toujours possible. Elle est surtout adaptée lorsque nous sommes confrontés à des termes équivoques, au sein desquels résident des connotations divergentes, voire opposées. À l'inverse, certains mots charrient avec eux un univers tellement péjoratif qu'ils découragent tout travail de redéfinition. Nous nous retrouverions irrémédiablement écrasés sous les représentations que nous prétendions écarter. À moins, bien sûr, que nous soyons prêts à nous engager dans une lutte pied à pied visant à faire entrer de force des connotations heureuses dans un terme honni. C'est la stratégie du retournement du stigmate qui consiste à se réapproprier un mot injurieux en changeant le sens. On peut penser, par exemple, aux écrivains francophones noirs du milieu du XXe siècle, qui décidèrent de revendiquer fièrement leur négritude. Une telle entreprise dépasse largement, toutefois, le cadre de ce qu'un individu peut accomplir seul. Nous quittons le terrain de l'argumentation pour entrer dans celui de la mobilisation collective et du débat public. Plus généralement, nous n'insisterons jamais assez. En tant qu'oratrice ou orateur, réfléchir à la connotation du lexique est un enjeu essentiel. Il en va de la réussite de notre entreprise de conviction ou de son échec. 3. Maîtriser la négation. Nous venons de voir que le langage possède une fonction proférentielle. Si un mot est prononcé, c'est qu'il renvoie à quelque chose. On peut ne pas saisir ce qu'il désigne, suspecter que le locuteur ne le comprenne pas lui-même, voire être convaincu qu'il ne recouvre en fait aucune réalité. Mais, dès lors que le mot est prononcé, il fait exister cette « chose », fût-ce dans le seul plan du langage et de l'imaginaire. Il en découle ce que Thierry Melchior appelle le principe de proférence « on ne peut pas » ne pas parler de quelque chose. Cette réflexion peut paraître abstraite, mais une anecdote permettra de l'illustrer. Le 31 mai 2017, peu après minuit, Donald Trump publie un tweet incompréhensible. « Despite the constant negative press, cov fefe » ou en français « Malgré la presse négative constante, cov fefe ». Le message est effacé quelques heures plus tard, mais le président des États-Unis, peu enclin à confesser la moindre erreur, affirme qu'il était parfaitement intentionnel. Immédiatement, le hashtag #CovFefe devient viral. Toute la toile s'en empare, d'abord pour se demander de quoi il s'agit, puis pour en rire. Le terme passe très vite dans le lexique politique et journalistique, où il est utilisé pour railler les gaffes ou dénoncer les mensonges des personnalités publiques, Donald Trump en tête. Des analyses ultérieures finissent par percer le mystère. De toute évidence, il s'agit d'un tweet inachevé, envoyé par accident, dans lequel « covfefe » est une faute de frappe pour « coverage ». Ce qui donne, malgré la couverture négative constante de la presse. Finalement, ce mot mystérieux ne voulait rien dire du tout. Mais qu'importe, à l'instant où il était proféré et assumé, il existait. Il était possible d'en discuter, d'en débattre ou de s'en gausser. C'est donc bien qu'il devait désigner quelque chose, même si personne au monde, littéralement, ne savait quoi. Du point de vue de la rhétorique, la fonction proférentielle du langage possède une implication pratique fondamentale. Elle attire notre attention sur les dangers mortels de la négation. En tant qu'oratrices ou orateurs, il est terriblement périlleux de nous aventurer dans une phrase en ne pas. Écarter les négations néfastes. En vertu du principe de proférence, dès l'instant où nous prononçons un terme connoté péjorativement, nous le faisons exister. Ces connotations commencent immédiatement à s'instiller dans l'esprit des auditeurs. Et ce, quand bien même nous l'aurions employé dans une phrase à la négative, précisément dans l'objectif de le rejeter. Cette idée est parfois résumée en une phrase trop simpliste, certes, mais qui a le mérite de la clarté. Le cerveau n'entend pas la négation. Étude de cas. Employé dans une grande banque, j'ai la surprise, un matin, d'être convoqué par la division des ressources humaines. Je me rends dans la salle de réunion et je me retrouve soudain face à mon manager, mon directeur, un cadre de la division financière et plusieurs responsables des ressources humaines. À ma stupéfaction, il m'accuse d'avoir détourné plusieurs dizaines de milliers d'euros depuis des comptes dont j'ai la charge. Ma chemise se mouille de transpiration. Je suis innocent, bien sûr, mais comment les en convaincre ? Je bredouille quelques bribes de phrases mal articulées, puis finis par m'exclamer « Mais enfin, je ne suis pas un voleur !» Regardez mes antécédents, je n'ai jamais escroqué personne. Je ne vais pas commencer une carrière d'arnaqueur à 50 ans. Autour de la table, les lèvres se pincent. Je réalise que j'ai plus que jamais l'air coupable. Décryptage. Nous venons de prononcer la pire des phrases possibles. Notre ligne de défense, en l'occurrence un argument par l'absence de précédent, était pourtant valable, mais elle pèse bien peu au regard des mots que nous avons employés. Voleur, escroqué, arnaqueur. Certes, ils étaient insérés dans des tournures négatives. Nous ne les avons utilisés que pour nous en défendre. Mais leur connotation est tellement forte qu'elle déborde du sens même des phrases, prend le pas sur la dénotation et marque au fer rouge l'esprit de nos auditeurs. Désormais, tout ce à quoi ils peuvent penser tient en trois verbes « voler »,« escroquer »,« arnaquer ». Il aurait pourtant été si simple d'utiliser des formulations positives. Mais enfin, je suis quelqu'un d'honnête. Regardez mes antécédents, j'ai toujours été irréprochable. Pourquoi voudriez-vous qu'à 50 ans, je cesse de respecter la loi. Le conseil pour les oratrices et les orateurs est donc le suivant : écartons les négations néfastes. Tâchons de n'employer que des mots dont les connotations sont entièrement à notre avantage. Cette règle ne cesse de s'appliquer qu'en une circonstance, si nous savons avec certitude qu'un terme péjoratif est déjà dans l'esprit de tous nos auditeurs. Un interlocuteur vient de nous le jeter au visage. La presse l'a publié en gros titre. Nous l'avons entendu prononcer à la machine à café. Dans une telle situation, il peut être judicieux, au contraire, d'empoigner à bras le corps le mot incriminé. Nous le prononçons une fois et une seule, le temps de le réfuter définitivement. Ce que vous venez de dire est scandaleux. Non, je ne suis pas un voleur. Au contraire...